de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
Le correspondant de CNN ne peut pas poser de questions. Votre organisation est horrible, vous n'aurez pas la parole, lance Donald Trump. Il félicite les médias prudents et il qualifie à l'inverse BuzzFeed de tas d'ordures qui a commencé à le payer.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Ce fut un grand moment, un moment mémorable, en tout cas dans l'histoire de la communication gouvernementale. Quelques jours après l'intronisation du président américain Donald Trump, sa conseillère, Kellyanne Conway, contredite par la presse à propos du décompte de la foule présente à Washington ce jour-là, qu'elle gonflait démesurément, expliqua froidement que ce chiffre était impossible à établir et parla, selon une formule immortelle, de faits alternatifs. Certains commentateurs ironisèrent, observant qu'on serait entré dans une ère de post-vérité. Mais naturellement, les historiens surgirent aussitôt, conformément à leur habitude et à leur vocation, pour rappeler que les fake news, les fausses nouvelles délibérément propagées à des fins politiques, étaient aussi anciennes que le gouvernement des hommes. Dans le journal Le Monde, Robert Danton a publié le 21 février dernier un article à ce sujet, illustrant la concordance des temps, article qui ne pouvait que me faire dresser l'oreille. Je l'ai donc aussitôt convié et je suis heureux que, se trouvant à Paris, il ait bien voulu une nouvelle fois venir à mon micro. Car il figure au premier rang de ces savants américains qui se sont attachés à notre passé national au fil de travaux éclatants consacrés notamment à l'opinion publique en France au XVIIIe siècle. Il a été professeur à l'université de Princeton puis à celle de Harvard où il a dirigé pendant plusieurs années la bibliothèque Weiner, l'une des plus grandes du monde. D'où il a lancé un vaste projet de numérisation de l'héritage culturel de l'Occident. Il est aujourd'hui membre de l'Institut d'études avancées à Paris, du côté de l'île Saint-Louis. Vraiment, the right man in the right place, pour nous aider à considérer de remarquables échos du passé au présent quant à la genèse des fausses nouvelles, leur circulation, entravées ou irrépressibles, et leurs conséquences politiques et morales dans l'équilibre des sociétés.
À Messire Francesco Marcolini. Si jamais vous entendez dire, ami, que les grands personnages m'offrent quotidiennement des cadeaux par crainte et non par amitié, voyez-y une preuve de mon importance. Certes, si j'étais prince, j'aimerais mieux être aimé que redouté, mais, étant Pietro, je préfère mon sort qui me fait craindre par les seigneurs que la chance d'en être aimé. C'est un jugement mauvais et stupide que celui des nombreux jaloux qui, en voulant m'humilier, ne font que m'exalter. C'est vrai, je suis un homme terrible, puisque roi et empereur me font des cadeaux par peur. Tranquillisez-vous donc à ce sujet, sans plus vous en offusquer. Maintenant, riez avec moi du plaisir que j'ai eu en voyant mon portrait entre César et Alexandre sur les médailles des étuis en vente pour les peignes. En ce qui me concerne, mon nom, je pense, ne s'éteindra pas de sitôt puisque, même au bordel, j'ai quelques réputations. Me voici célébré par les charlatans. Voici qu'on me dédie des livres qui autrement ne se vendraient pas. Me voici en plomb, en cuivre, en argent et en or. Je suis tout réjoui. Je me comporte ainsi pour que les minables croient se donner de l'importance en s'en prenant à moi. En attendant, les écus qui commencent à dépasser les centaines sont de bien mauvais augure pour eux. Adieu. Venise, janvier 1545.
Robert Danton, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Tout le plaisir est pour moi. Je vous ai proposé pour commencer un texte de L'Arétin, parce qu'il me paraît assez représentatif. Vous avez l'air content. Vous en parlez dans vos ouvrages d'ailleurs.
Oui, L'Arétin, c'était un homme incroyable, d'une audace terrible, n'est-ce pas? Il venait de n'importe où, il se trouvait à Rome sans le sou, et il improvisait des sonnets. Il plaquait les sonnets sur le buste d'un personnage qui s'appelait Pasquino. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, personne n'a su qui était Pasquino. Mais tous les jours, pendant l'élection du nouveau pape en 1522, il paraissait un sonnet d'Aretino qui se moquait des candidats. Chaque candidat avait ses faiblesses, sauf un, qui était bien sûr le candidat des Médicis, protecteur d'Aretino.
Nous sommes vers 1522.
Une élection qui a duré très très longtemps. On glissait les poèmes même dans la salle où avait lieu l'élection, etc. Mais les sonnets étaient si méchants et si drôles que tout Rome les connaissait par cœur. Et c'était le début d'une carrière de diffamation, de fausses nouvelles, très très drôles. Hélas, je ne me souviens pas des sonnets, mais il y en avait un qui se moquait d'un cardinal qui était trop attaché à sa mère, donc ridicule. Tandis que les autres, il s'agissait d'usure, d'exploits dans les bordels de Rome, etc. Enfin, cet Arétin est devenu un personnage très important.
Pour notre sujet, notamment.
Exactement. À mon avis, c'est le père fondateur des fausses nouvelles.
Vous pensez que Mme Conway a beaucoup lu Arétin, le président Trump aussi?
Je crains que Mme Conway n'ait pas lu Arétin. Elle aurait pu apprendre des leçons, puisque ses mensonges étaient plutôt bêtes, tandis que les mensonges d'Arétin avaient du sel, étaient spirituels et d'autant plus forts, puisque ça se répandait énormément, non seulement à Rome, mais partout en Europe. Charles Quint lui a donné un collier d'or pour qu'il n'insulte pas l'empereur.
On voit déjà un phénomène que l'on constatera toujours, c'est-à-dire que beaucoup s'enrichissent moins par ce qu'ils publient que par ce qu'ils ne publient pas et menacent de publier.
Exactement. C'était du chantage, si vous voulez, mais du chantage spirituel. La ridicule était déjà une arme dans la vie politique de cette époque-là. Et donc, L'Arétin s'est acheté un palais à Venise. Il était très apprécié de Titien, qui a fait 3 portraits d'Arétin magnifiques. Et on le voit comme un homme puissant, fort, spirituel, un homme tout à fait admiré par Titien. Et ce qui me frappe, c'est qu'au XVIIIe siècle, L'Arétin était aussi un personnage très apprécié du public français. Un des best-sellers de cette époque-là
un peu sulfureux d'ailleurs, non?
Oui. Bon, le titre était L'Arétin moderne. Et là, on lit toutes sortes de mensonges, de fausses nouvelles sur les personnages du temps. Donc l'idée de L'Arétin, de l'arétinisme, était très fort et très répandu.
Donc c'est comme un galet qu'on jette sur l'eau. De siècle en siècle, le principe des fausses nouvelles se retrouve. En arrière aussi, on peut remonter jusqu'à Procope, comme vous le faites dans un de vos livres, Robert Danton.
Oui, Procope, le grand historien du VIe siècle après Jésus-Christ, il était comme l'historien officiel de Justinien. Donc il a publié des histoires très correctes, etc. Mais en secret, il écrivait ce qu'il appelait des anecdotas. Et les anecdotas, d'après le grec, ça veut dire histoire secrète. C'était des commérages sur la vie sexuelle de l'empereur, du grand général Bélissère. Enfin, c'était vraiment très fort. Et cela, éventuellement, se répandait à côté de l'histoire officielle. Donc, pour ma part, je vois Procopius comme la vraie origine de toute une tradition de fausses nouvelles.
Avec, entre Arétin et Procope, les deux ressorts majeurs de la calomnie, c'est-à-dire le sexe et l'argent.
Oui, mais chez les grands, le sexe chez les pauvres, l'argent n'existait pas chez les pauvres. Non, c'est l'idée de la vie privée des gens en place, des grands. Et tout le public était toujours fasciné par cela. Parfois, ça avait une certaine importance. Parfois, c'était simplement une plaisanterie qui passait. Mais pendant des périodes de crise, ça avait une certaine force.
Oui, le phénomène que nous évoquons, les fausses nouvelles, pour vous est très important. Vous nous avez dit dans vos livres que l'État prenait les libelles très au sérieux au XVIIIe siècle et vous ajoutez ce que les historiens devraient faire. C'est ce que nous faisons ce matin.
Exactement. Moi, j'admire la police française.
On lui transmettra ses félicitations.
Parce que cette police-là était intelligente. Il y avait, par exemple, l'inspecteur Joseph Demery, chargé de la littérature. Et lui suivait tous les propos méchants. Il connaissait tout le monde, Rousseau, Diderot, Voltaire compris. Il faisait des rapports sur l'opinion publique. Donc, c'est-à-dire que l'État était conscient de l'importance de cette opinion publique, malgré le fait que la royauté était censée être absolutiste. Donc une sorte de paradoxe à l'intérieur d'un système politique qui était beaucoup plus faible qu'on ne pense.
Vous nous dites que ces fausses nouvelles, propagées par des libelles, sont importantes pour comprendre la naissance d'une opinion publique, tout en marquant qu'il ne faut pas y aller chercher là les ressorts essentiels qui ont pu conduire à la Révolution. Les effets politiques, nous dites-vous, et c'est intéressant aujourd'hui, sont relativement limités, ce qui ne diminue pas l'intérêt du sujet lui-même.
Voilà, il est trop facile de trouver les origines de la Révolution française. Tout 18e-iste tombe sur n'importe quel dossier et il y voit la Révolution. Pour ma part, je trouve qu'il vaut mieux étudier les dossiers dans le contexte du temps. Donc j'ai fait une étude sur les fausses nouvelles, les bruits publics vers 1749-50, parce qu'il y avait une crise politique très spécifique, c'était la chute du ministère du comte Maurepas. Et Maurepas était l'homme puissant de cette époque-là et il a été licencié par Louis XV. Pourquoi ? Tout Paris répondait de la même façon à cause des chansons. Des chansons. L'idée qu'un ministre peut tomber à cause des chansons, nous paraît curieux, mais en fait, c'était le cas.
Mais il les écrivait lui-même, dit-on. C'est lui qui a fait cette chanson que je vais vous faire entendre. Écoutez donc, chanson sur Madame de Pompadour, 1749, c'est la date que vous venez d'évoquer, qui est interprétée ici longtemps plus tard, c'est-à-dire 210 ans plus tard, en 1959, par Paul Barré.
Les grands seigneurs s'avilissent, les financiers s'enrichissent, tous les poissons s'agrandissent, c'est le règne des vauriens. On épuise la finance en bâtiments, en dépenses, l'État tombe en décadence, le roi ne met ordre à rien. Une petite bourgeoise élevée à la grivoise, mesurant tout à la toise, fait de la cour un taudis. Le roi, malgré son scrupule, pour elle, follement brûle. Cette flamme ridicule excite dans tout Paris. Cette catin subalterne insolemment le gouverne et c'est elle qui décerne les honneurs à prix d'argent. Devant l'idole tout plie, le courtisan s'humilie, il subit cette infamie et n'est que plus indigent. Si dans les beautés choisies, elle était des plus jolies, on pardonne les folies quand l'objet est un bijou. Mais pour si mince figure et si sotte créature s'attirer tant de murmures, chacun pense le roi fou. Il est vrai que pour lui plaire, le beau n'est pas nécessaire. Vintimille sut lui faire trouver son grouin gentil. On croit aussi que d'estrade, si vilaine, si maussade, aura bientôt la passade. Elle en a l'air tout bouffie.
Alors, Robert Danton, est-ce que vous retrouvez là l'essentiel, l'essence de ces fausses nouvelles portées par les chansons et qui ne sont pas sans importance dans la vie publique, la vie politique, la vie de la cour, c'est-à-dire en somme le pouvoir?
C'est exactement ça, puisqu'il y avait des partis à la cour, une lutte permanente, le parti du roi, le parti de la reine. Maurepas était entre les deux, Madame de Pompadour qui commençait à surgir avec l'appui du comte d'Argenson. Enfin, il y avait tout un monde politique compliqué.
Elle était née poisson, c'est pour ça que la chanson s'appelle « Les poissonnades ».
Les Poissonnades, puisque c'était le nom de famille de Madame de Pompadour, qui habitait rue de Richelieu. Et les Poissonnades se répandaient énormément. Maurepas en faisait collection. Il était connu comme quelqu'un qui adorait les mauvais bruits, les chansons, les poèmes, etc. Il pouvait sortir de ses poches la dernière version de telle ou telle chanson pour amuser le roi. Mais le roi n'était pas amusé de cette chanson qui concernait Madame de Pompadour.
Sa maîtresse officielle.
Voilà, donc il y avait des limites et Maurepas passait les limites. Et comme cela, il tombait dans le piège du comte d'Argenson. Donc, j'y vois pas les origines de la Révolution française, mais une politique très style Ancien Régime, mais important, puisque c'était une sorte de révolution dans la balance des pouvoirs à Versailles et qui pénétrait jusqu'à Paris, puisque ces chansons-là étaient répandues partout. Et je vois Paris comme baigné dans les chansons. Et c'était facile d'ailleurs, puisque tout le monde avait dans sa tête un répertoire d'air, de musique, et il était facile d'improviser un vers d'après un air connu. Et ça, c'était comme un feu d'artifice qui se répandait partout à Paris.
Bien avant les systèmes contemporains de communication, dont beaucoup nous disent « ça a complètement révolutionné la communication entre les hommes », je pense bien sûr au téléphone, à l'ordinateur et tout l'ensemble de la révolution technologique, eh bien vous nous dites « non ». Enfin, c'était différent. La mémoire d'ailleurs était plus développée, la mémoire des chansons, du fait qu'il n'y avait pas cette concurrence de l'immédiate accessibilité que nous connaissons aujourd'hui à ces chansons elles-mêmes.
Oui. Vous savez, on m'explique souvent que nous vivons dans une société d'information. À mon avis, chaque société était une société d'information, mais d'après les médias de l'époque. Eh bien, à Paris, au XVIIIe siècle, un des médias les plus importants était la chanson. Il n'y avait pas de vrais journaux dans le sens moderne du mot, mais il y avait des chanteurs publics sur tous les coins, au Pont Neuf, quai des Augustins. Les gens chantaient en travaillant. Le jeune Favart, qui était pâtissier, improvisait des chansons quand il était tout jeune. Tout le monde chantait. Donc il faut imaginer un Paris baigné dans les chansons et des chansons plutôt méchantes.
C'est ce qu'observe à l'époque le responsable de la police, le Noir. Le oui. Lieutenant de police qui écrit dans ses souvenirs « Les bons mots et les éloges, les chansons et les satires ont toujours caractérisé le français et singulièrement le parisien ». Il y a probablement aujourd'hui encore une distinction à faire entre le parisien et les régions, puisqu'on ne dit plus la province. « Rien ne circule, dit Lenoir, rien ne circule plus vite qu'un trait d'esprit et qu'une épigramme bonne ou mordante, spécialement quand la satire a pour objet un grand personnage, un homme en place » ou un homme distingué. Et probablement les échos, vous allez nous le dire, vers aujourd'hui, s'imposent-ils. Monsieur de Maurepas répétait gaiement dans sa société, vous venez de nous le dire, des vers faits contre lui, petit morceau de masochisme ou d'une façon de marquer ostensiblement qu'on est indifférent à ces piqûres de guêpes. Il disait que c'était et ce serait un amusement de tous les temps, ça nous concerne, et que leur circulation était le partage des désœuvrés de Paris, dont il y a tant et qui, dans le monde, voulaient se donner un air d'importance. Il se plaisait à répéter cette réponse du chancelier de Pontchartin, sur lequel on avait fait une sanglante satire. Plus on se raidit contre cette sorte d'attaque, et plus elle se fortifie. Cela pose un problème de toujours, c'est-à-dire faut-il répondre ou non aux attaques contre vous, aux rumeurs, aux saillies qui vous sont adressées? Est-ce qu'en y répondant, on ne leur donne pas plus de place? Tout récemment, un candidat à la présidence de la République a eu à se défendre contre des rumeurs infâmes. Il a choisi de se défendre en disant que c'était faux. Il semble que cela ait mis fin à ces rumeurs-là. Mais ça ne marche pas toujours.
Ça ne marche pas toujours. Et j'ai trouvé d'ailleurs cette citation dans les manuscrits de Lenoir à la bibliothèque municipale d'Orléans. Il a écrit ce morceau après la Révolution. Il est donc possible que lui cherchait les origines de la Révolution. Mais j'ai beaucoup de respect pour Charles-Pierre Lenoir, un homme très intelligent, très bien informé, mais qui savait que les rumeurs représentaient une sorte de force. Il fallait donc contrôler. Il y avait la Bastille, bien sûr, mais mieux valait corrompre les nouvellistes de bouche, comme on les appelait, des nouvellistes qui trouvaient des bruits un peu partout, à Paris. Il y avait certains banques dans le jardin des Tuileries, aussi au jardin de Luxembourg, il y avait l'arbre de Cracovie au
Pourquoi
Palais
Cracovie
Royal.
Pourquoi Cracovie d'ailleurs?
Eh bien, on ne sait pas trop bien, mais c'était un arbre au fond du jardin du Palais Royal et on estime que c'était un arbre où se rassemblaient les nouvellistes à l'époque de la guerre de la succession de Pologne. Donc au début du XVIIIe siècle, et tout le monde qui voulait s'informer allait à cet arbre où il y avait toujours un groupe de personnages. Alors la police avait ses écrivains, et les nouvellistes de bouche transformaient les mauvais bruits, les fausses nouvelles, très souvent, en gazettes clandestines. Donc on passait des nouvellistes de bouche aux nouvellistes à la plume, et la police en prenait pour créer des gazettes de police, des gazettes censées être secrètes, qui circulaient sous le manteau, mais qui étaient en fait rédigées par des nouvellistes subventionnés par la police. Donc au lieu de nier toute information, il valait mieux, d'après Lenoir et d'autres, manipuler l'opinion publique en glissant certaines nouvelles à moitié vraies, à moitié fausses, mais qui étaient plutôt favorables aux grands.
Il y a au fond trois méthodes pour la police pour combattre ces auteurs de libelles infâmes, ou bien on les met en prison. Vous en avez évoqué dans une affaire qui s'appelle l'affaire des 14, un exemple frappant. On remonte la filière de la circulation de la chanson et on les met à la Bastille ou ailleurs. Oui. Ou bien on va les corrompre en amont, ou bien on joue soi-même à diffuser de fausses nouvelles. Et là, c'est peut-être là qu'on rejoint d'ailleurs Monsieur Donald Trump, votre président. Je ne veux pas être désagréable à l'égard d'un éminent universitaire américain, mais enfin, nous restons sidérés pour notre part par le nombre de fausses nouvelles qu'il a pu lancer et qui sont, elles, ouvertes, non? Par exemple, cette affaire suédoise, quand il a dit qu'il y avait eu une attaque en Suède, une attaque djihadiste, en février, le 17 février 2017, c'était purement inventé. Ça, je ne sais pas, ce sont des faits alternatifs. Ou bien ce massacre, vous m'évoquez ce massacre de Bowling Green, non?
Oui, ça c'est assez étonnant et d'ailleurs c'est assez grave. C'était encore cette dame Kellyanne Conway qui était conseillère de Trump.
Déjà citée, c'est sa fête ce matin.
Oui, non, c'est elle des fêtes alternatives. Et elle a même raconté trois fois qu'il y avait un massacre par des islamistes qui étaient formés par le Daesh et qui ont massacré des gens à Bowling Green, en Kentucky. Et c'était parfaitement faux. Mais elle a lancé cela à la veille de la politique de Trump qui voulait empêcher des citoyens de sept pays musulmans. Donc c'était assez satanique, je dirais, comme politique, et la vérité n'y était pour rien. On inventait des faits simplement pour répandre des faussetés et jouer, faire vibrer un certain cordon sentimental chez les électeurs de Trump.
Je vais vous faire entendre à ce moment de notre conversation, Robert Danton, une chronique qui remonte à 1945, le 19 janvier 1945, quelques mois après la libération de Paris, la France est encore en guerre, une chronique de Jean Oberlé, vous savez, ce dessinateur qui avait été un des journalistes majeurs des émissions venues de Londres au service de la France libre. Jean Oberlé, qui a rejoint Paris et la radio d'État, s'exprime de la sorte dans « Paris vous parle ». Et il évoque précisément la question des rumeurs qui viendraient, à partir de sources méphitiques, qui viendraient peser sur l'opinion française. Et il réfléchit aussi à la manière de lutter contre. Vous me direz ensuite si vous trouvez que cela peut évoquer des situations contemporaines.
Je voudrais ce soir vous parler des rumeurs, ou si vous préférez, des fausses nouvelles. Car il se répand beaucoup de fausses nouvelles. Et elles se répandent avec une rapidité surprenante, d'autant plus rapidement qu'elles sont plus fausses. J'en ai entendu plus en 4 mois de Paris qu'en 4 ans de Londres. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? J'ai entendu des gens me dire, complètement affolés, l'armée Leclerc est décimée, elle a perdu presque tous ses officiers et la moitié de ses soldats. Je leur expliquais qu'il n'y a pas une armée Leclerc, mais une division Leclerc. Et que non seulement elle n'était pas désarmée, mais qu'elle était hors pot, peine perdue. Je n'arrivais pas à les convaincre. L'autre soir, un avion allemand a lâché quelques bombes sur Paris. Le lendemain, des Français m'ont dit le plus sérieusement du monde que c'était un avion américain désemparé qui avait bombardé Paris. Alors, de deux choses l'une. Ou bien les Français sont devenus complètement abrutis, ou il y a une cinquième colonne qui propage ces mauvaises nouvelles. Il faut que les Français se rendent bien compte que l'ennemi a encore des partisans, des amis en France. Non seulement il y reste des miliciens, des doriotistes, et même des pétainistes qui se répandent et ne répandent pas toujours les mauvaises nouvelles, mais ont une fâcheuse tendance à le croire. Des attentistes, des pessimistes, qui croient que parce que la France est libérée, tout doit marcher comme en temps de paix. Il y a donc une masse de gens, depuis des traîtres jusqu'à de très braves gens, grâce à qui toutes ces rumeurs, toutes ces fâcheuses nouvelles se propagent. Il faut lutter contre cette cinquième colonne que l'ennemi entretient chez nous. Vous remarquerez que Paris n'est pas bombardé par des V2, alors que Londres continue à l'être. Les Allemands pourraient bombarder Paris s'ils le voulaient. Ils ne le veulent pas parce qu'ils préfèrent agir plus perfidement. Ils préfèrent agir sur les nerfs des Parisiens, par les mensonges qu'ils répandent, plutôt que par des bombes. Il faut que chaque Française, arrête ces rumeurs. Dise non, je ne marche pas, je le croirai quand on aura prouvé que c'est vrai. Il faut que ces fausses nouvelles trouvent des millions de barrages pour les endiguer. De barrages de vrais Français qui écoutent plutôt leur bon sens que leur nervosité. Sinon, c'est faire le jeu de l'ennemi. Jeu qui est loin d'être fini et nous réserverait de mauvaises surprises. On a dit des Français qu'ils étaient le peuple le plus spirituel de la Terre. Il serait temps de le prouver.
Alors, Robert Danton, comment réagissez-vous à ce texte de 1900?
C'est émouvant et je pense 45. qu'il a parfaitement raison, n'est-ce pas, qu'il y a une puissance et il ne faut pas sous-estimer cette puissance des fausses nouvelles, des rumeurs, des bruits publics, etc. Il parle de la cinquième colonne, c'est le mot utilisé par le président Trump et lui, quand il nie que tel ou tel événement a eu lieu, il se réfère toujours aux médias comme cinquième colonne. Il insiste que, par exemple, Obama a mis des écoutes dans son Trump Tower, n'est-ce pas, pour enregistrer les secrets du Parti républicain. Ça faisait partie de cette soi-disant cinquième colonne. C'est parfaitement faux. Il y avait le chef de la FBI et aussi le chef des renseignements qui ont dit qu'il n'y a pas la moindre preuve de ces écoutes, etc.
Il a fait aussi courir le bruit que les conseillers de Hillary Clinton auraient monté un réseau pédophile dans une pizzeria.
Oui, extraordinaire. Qui pourrait croire que Hillary Clinton faisait de choses pareilles?
Pas nous ici en tout cas.
Non, mais il y avait un sudiste qui est arrivé en voiture avec un fusil qui a tiré sur cette pizzeria pour tuer ces personnes qui devaient faire des orgies avec des enfants. Donc, les rumeurs sont prises au sérieux et on a du mal à concevoir à quel point cette force existe réellement.
D'ailleurs, on voit que parfois, ça fonctionne aussi dans l'autre sens, puisque à partir probablement du milieu Clinton, une rumeur aurait voulu que Trump aurait payé des prostituées pour qu'elles urinassent, je trouve qu'un imparfait du subjonctif n'est pas malvenu en l'occurrence, sur un lit antérieurement occupé par le couple Obama. On est en plein macartisme des deux côtés, non?
Mais qui pourrait croire cela? Ce sont des extravagances, mais Hitler a dit « plus une blague est énorme, plus elle est crue ». Donc nous sommes dans cette période dite « post-vérité » où n'importe quoi peut passer. Pourtant, il y a des contre-courants et à la longue, j'espère que finalement le public américain arrivera à être plus sophistiqué.
Vous évoquez dans un de vos livres, je cite, « calomnie, diffamation, détraction, dénigrement, médisance, débinage, clabaudage et persiflage » qui ont fleuri dans la France du XVIIIe siècle. Est-ce que cette liste vaudrait aussi pour les États-Unis d'Amérique aujourd'hui?
Je pense que l'Amérique aujourd'hui est beaucoup moins spirituelle. Persiflage, il est vrai qu'il y a beaucoup de comédiens qui se moquent de Trump à la télé. Il semble que c'est très réussi. Oui, il existe un certain esprit de persiflage, de contestation. Seulement, j'ai l'impression que les critiques de Trump parlent à un public très restreint, le public des intellectuels, des professeurs d'université, des journalistes, etc., des gens de la côte Est et Ouest, tandis que le public de Trump n'y écoute pas et il y a comme une division dans les opinions publiques. Alors comment changer cela? Je n'en sais pas trop.
Il y a toujours l'idée aussi de cette cinquième colonne, c'est de l'étranger qu'arriverait le flux des informations fausses, que les fausses nouvelles s'efforcent de démentir. Oberle évoque cela, ce sont les Allemands qui poussent les anciens pétainistes, les pétainistes à agir. Déjà au XVIIIe siècle, on se préoccupait des fausses nouvelles arrivant en particulier de Londres. C'est un point très, très important, c'est à Londres qu'est publié le Gastier cuirassé, et qui ne s'intéressait qu'aux nouvelles françaises, tout en s'inspirant de la presse à scandale anglaise. Elle existe toujours, cette presse à scandale, plus forte qu'en France. Est-ce qu'il y a une continuité à cet égard? Je vois, en vous lisant, que le journal Le Gastier, donc cuirassé, publiait des informations sous la forme de paragraphes qui ne comportaient qu'une seule phrase. Mais quelle phrase? Je vous cite, professeur Danton. On raconte que le curé de Saint-Eustache a été surpris in flagrante delicto, il faut toujours parler latin pour offenser la pudeur, in flagrante delicto avec la diaconesse des dames de la charité de sa paroisse, et la citation se termine de la sorte, ce qui serait tout à l'honneur de ces deux personnes, puisque l'un et l'autre sont octogénaires.
Voilà, donc vous voyez la spiritualité à la française, mais ce Thévenot de Morande était un réfugié français à Londres où il a appris des techniques de diffamation, etc.
C'est le directeur du Gastier, oui. Morande, oui.
Oui, oui, donc il se présente comme le Gastier cuirassé, un Gastier style anglais. Et il faut dire que la presse anglaise à cette époque-là était d'une violence inouïe, beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Rupert Murdoch, ce n'est rien du tout à côté, par exemple, de Henry Bate, le fondateur de The Morning Post, 1772. Henry Bate diffamait tout le monde, y compris Marie-Antoinette, où il a fait un paragraphe indiquant que Marie-Antoinette favorisait c'est-à-dire couché avec un certain Anglais, un noble Anglais, qui recevait toutes sortes de cadeaux de la reine. Il l'insultait à tout le monde et parfois ses victimes ont été tellement furieux qu'ils ont demandé à justice, pas devant les cours, mais en se battant. Et ce Henry Bate, qui était d'ailleurs un révérend de l'Église, il portait un soutane d'Église, était un boxeur incroyable. Donc il terrassait les gens et il faisait des rapports sur ses combats dans le journal du lendemain.
Alors comment faisaient les Français pour essayer de combattre ces mensonges venu de l'autre côté de la Manche? À un moment donné, on envoie Beaumarchais pour s'efforcer de calmer le jeu. On songe même apparemment à enlever, mais ça ce serait plutôt des méthodes soviétiques que américaines, pour enlever le nommé Morand, pour l'empêcher de continuer à clabauder.
Exactement, on envoyait un sbire de la police pour enlever Thévenot de Morand. La nuit, tout était préparé, il y avait une sorte de carrosse préparé, un bateau prêt à le mettre à la Bastille. Ça n'a pas marché puisque lui était au courant et il répondait les bruits que ces mauvais Français, agents du despotisme, allaient enlever un brave journaliste. Il y avait une émeute qui a empêché cela. Donc après, on a envoyé Beaumarchais avec pas mal d'argent, puisque Morand avait écrit « Une vie secrète de Madame de Pompadour », 2 volumes.
Et, Maîtresse du roi.
Il y avait des tractations et finalement, Morand a brûlé le manuscrit devant Beaumarchais en empochant une somme colossale. Donc la police française était prête à tout faire pour étouffer ces bruits.
On a la correspondance des ambassadeurs de France à Londres qui souvent avoue une grande impuissance.
Oui, j'ai passé beaucoup de temps à lire la correspondance de l'attaché français et puis de l'ambassadeur français qui parle beaucoup des libellistes, des journalistes qui attaquaient la reine, les ministres, etc. Et finalement, j'ai l'impression que le ministre des Affaires étrangères, Vergène, passait plus de temps à s'occuper de ces mauvais bruits qui venaient de l'Angleterre que de la politique proprement dite, politique étrangère proprement dit, notamment à l'époque où on négociait le traité de Paris qui nous a donné, à nous autres Américains, notre liberté en 1783. Donc c'est fascinant que de voir un ministre des Affaires étrangères s'occuper à tel point des mauvaises nouvelles.
Il est possible que nos ambassadeurs, les ambassadeurs européens à Washington, consacrent aujourd'hui dans leur missive à leur chancellerie quelque attention aussi aux propos du président Trump, parce qu'il y a de la matière, non ?
Je pense que oui, mais je ne suis pas dans le secret des ambassadeurs français. Il est pourtant certain qu'il existe une enquête actuellement sur les Russes qui plantaient de mauvaises nouvelles, qui écoutaient aux conversations politiques, notamment chez Hillary Clinton, etc. Il y a une enquête sérieuse. J'ai l'impression, mais je ne suis qu'un lecteur des journaux, que la Russie a une politique d'information très développée pour manipuler les élections et les systèmes politiques, non seulement aux États-Unis, en Allemagne et qui sait, peut-être en France.
La réflexion s'organise forcément quand on réfléchit à l'histoire vraie des fausses nouvelles, comme nous le faisons ce matin, Robert Danton, au mécanisme du bouche à oreille, de la rumeur, à l'extrême difficulté, effectivement, qu'on peut éprouver quand on est un gouvernement ou quand on est un média influent pour empêcher cette circulation des bobards, des canards, comme on a commencé de le dire. L'expression a été reprise par le canard enchaîné pour en tirer gloire, enfin à l'envers en quelque sorte. C'est la question de la rumeur. Est-elle maîtrisable ? Voici une chanson de Ray Ventura, d'époque 1936. C'est lui qui a fait la fameuse chanson « On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried ». Eh bien, voici une autre, moins connue, qui s'intitule « C'est la rumeur publique ». Ray Ventura et ses collégiens, 1936.
Un sale gosse nommé Stéphane étant privé de goûter a chipé une banane et sa maman l'a fouetté. Aussitôt une voisine est sortie de sa cuisine. Elle est descendue vivement chez la crémière en disant et papapi et papapa et papapi et papapa et papapi et papapa et papapi et papapa. C'est la rumeur publique qui sème la panique. On ne saura jamais qui l'a dit car c'est la rumeur publique qui sème la panique. Tout le monde l'a dit.
La crémière dit aux pratiques, croyez-vous c'est effarant, une femme neurasthénique assassine son enfant. Les clients que ça bouleverse disent au café du commerce, moi j'ai vu le sang sur le couteau, moi j'ai compté les morceaux.
Et papapi, et papapa, et papapi, et papapa, et papapi, et papapa. C'est la rumeur publique qui sème la panique, tout le monde l'a dit.
Une dame patronesse, un député puissant, téléphone, il faut que cesse ce massacre des innocents. Le député vitupère, je renverse le ministère, si le gouvernement sur l'heure n'arrête pas toutes ces horreurs.
C'est la rumeur publique qui sème la panique, tout le monde l'a dit.
Gardes et maréchaussées, gendarmes à pied, à cheval, cherchent les pièces détachées et chuchotent, ça va très mal. Pendant ce temps, le petit Stéphane, en train de bouffer sa banane, se demande l'air étonné, ah bah qu'est-ce qu'ils en ont tous à gueuler.
La voisine s'écrie, mais le v'là le petit.
Et le commissaire en tombe-t-il derrière.
Le député furieux n'en croit pas ses yeux.
La dame patronesse en a une faiblesse.
Les clients contents se commandent un vin blanc.
Et la cuisinière gifle la crémière.
Pendant ce temps, Stéphane chipe une autre banane.
Et le sous-préfet se demande stupéfait.
Ce bruit est perdu, mais qui l'a répondu?
C'est la rumeur publique qui sème à la panique.
Vous avez remarqué, Robert Danton, j'en suis sûr, sur le mode plaisant, il apparaît que ça n'est pas entièrement faux. Il y a quelque chose qui part du minuscule pour arriver au maximum.
Oui, oui, c'est fascinant. D'ailleurs, dans ce libelle qui s'appelle le Gaztier cuirassé, il y avait des notes en bas de page qui se moquent, bien sûr, des informations. Et une des notes dit... La moitié de cet article est vrai. Point. Quelle moitié? Eh bien, c'était au lecteur de décider. Donc, c'était un jeu assez ambigu. Il y avait des clins d'œil, etc. C'était une sorte de sport, de plaisanterie. Mais, d'autre part, il y avait un aspect sérieux, puisque souvent les conséquences ont été même horribles. Je pense à l'affaire de Simon, le petit Simon qui avait 2 ans en 1475.
Racontez-nous ça.
Eh bien, c'était un enfant qui a disparu. Et plus tard, il a été trouvé, un cadavre noyé. Mais le bruit répandait que c'était des Juifs qui l'enlevaient pour en extraire son sang et le boire ou le mettre dans des mazots à l'époque de Pâques. Donc cette idée d'une meurtre cérémoniale faite par les Juifs contre les chrétiens...
Trump n'est pas allé jusque-là, votre président Trump n'est pas allé jusque-là aux dépens des musulmans,
non,
pas tout
non,
à fait.
Non. Mais à cette époque-là, c'était horrible, puisqu'ils ont torturé 9 ou 15 Juifs en disant que c'était des gens qui pratiquaient cette cérémonie diabolique. Et le mythe des Juifs qui ont levé le sang des chrétiens, des enfants chrétiens, était très répandu et faisait partie de l'antisémitisme horrible. Donc je vois aussi dans les fausses nouvelles un véritable danger qui existait au passé et qui existe encore aujourd'hui, parce que empêcher les musulmans d'entrer aux États-Unis, c'est quand même sérieux. Et l'idée de rassembler 13 millions de Mexicains pour les chasser des États-Unis, c'est encore pire. Donc je vois en ce moment un véritable danger d'une sorte de tyrannie dirigée contre les pauvres, les étrangers, les gens qu'on ne connaît pas, mais qui semble représenter une sorte de danger pour les braves Américains du Middle West.
Donc vous voyez, Robert Danton, les fausses nouvelles comme une arme au service de cette politique de division et en même temps de repli sur soi?
Oui, et vous connaissez bien sûr la grande peur pendant la Révolution française.
L'été 89.
Oui, et les paysans étaient convaincus qu'il y avait des brigands qui arrivaient de partout, notamment de l'Autriche, pour les massacrer, etc. Et c'était une émeute énorme qui a déclenché la chute du féodalisme. Donc ça aussi, c'était des fausses bris, mais avec des résultats politiques importants.
Restons un instant sur ces conséquences meurtrières, Robert Danton, avec le cas d'une victime des calomnies qui est bien connue en France. C'est le cas de Roger Salengro, qui était le ministre de l'Intérieur de Léon Blum et qui était accusé par les feuilles hostiles, Gringoire et autres, de Candide, d'avoir, pendant la guerre, déserté en se faisant faire exprès prisonnier. C'était une rumeur infondée, mais qu'il a peu à peu rongé jusqu'à ce que finalement, ce maire de Lille, ministre de l'Intérieur de Léon Blum, se soit donné la mort. Et voici la manière dont son ami Léon Blum en parle.
Il n'a été tué ni par le surmenage, ni par la maladie, ni par le souvenir inapaisé de la femme qu'il avait aimée et qu'il avait perdue. La fatigue, la lésion organique, le chagrin n'ont fait qu'altérer sa force de résistance contre le poison versé en lui jour à jour. Ses lettres intimes, ses lettres posthumes disent la vérité. Il est la victime de l'atroce, de l'infâme calomnie. Un sentiment a dû jouer un rôle, un sentiment que je connais bien, l'impuissance devant le mensonge. On sait que telle ou telle accusation odieuse ou burlesque est un mensonge. Comment le prouver? Comment confondre la calomnie? Comment, ce qui serait plus nécessaire encore, convaincre le juge moyen, le juge indifférent et de bonne foi? On s'épuise à chercher le moyen d'établir, comme on le voudrait, avec l'évidence de la lumière, ce qu'on sait bien, soit être la vérité. On cherche. On ne trouve pas, jusqu'à ce qu'on ait acquis par l'usage cette endurance qui prend des airs de sérénité. Le plus cruel est de se sentir sans défense et sans armes.
Je vous voyais presque ému, Robert Danton,
oui,
par ces propos. Oui. L'odieux et le burlesque qui se mêlent toujours, jusqu'au drame souvent.
C'est vrai, n'est-ce pas? Donc, il y a l'aspect drôle, léger, etc., mais aussi ça peut tourner à la tragédie. Et d'ailleurs, je vois une différence entre bouche à oreille d'autrefois et les médias d'aujourd'hui. Si vous prenez, par exemple, Facebook, il y a un filtrage par algorithme qui consiste à diriger les informations à un certain public déjà sélectionné par les techniques des algorithmes. Et comme ça, ce public est déjà préparé pour accepter une fausse nouvelle, extravagance, par exemple que Obama n'est pas né aux États-Unis ou qu'il est musulman, n'importe quoi. Et cela se répand d'une vitesse étonnante avec des cibles précises. Vous avez en France 24 millions de personnes qui écoutent chaque jour Facebook. Et Facebook, comme vous savez, a été inventé à Harvard par un de nos étudiants. J'ai des amis qui l'ont enseigné à faire la science d'information, si vous voulez, mais techniquement. Et c'est une puissance dangereuse, inévitable, mais dangereuse.
Donc j'allais vous féliciter pour Harvard, mais je suspends cette félicitation.
Oui, bon, il n'est pas le seul. Hein. Gates également a fait ses études. On a formé tous les chefs de cette information électronique actuelle.
Et qui vous paraît receler des périls du côté des fausses nouvelles par le fait que, au lieu d'aller compenser les erreurs, on va les renforcer chez ceux qui sont particulièrement prêts à les accueillir. C'est ça que vous dites?
Exactement. Et cela les renforce. Donc les gens sont prêts à croire ce qu'ils croient déjà. Et ces croyances sont renforcées de manière que le public devient fanatique. Et vous avez des gens comme celui qui a tiré dans la pizzeria croyant que Hillary Clinton y faisait des orgies. Donc j'y vois un véritable danger. Que faire? Eh bien, je n'ai pas de réponse, mais il me semble que nous avons besoin d'une société ouverte où les médias ne sont pas monopolisés par certaines grandes boîtes.
Les médias s'efforcent, ceux qui sont les plus considérés, de lutter contre les fausses nouvelles dont nous parlons ce matin. Je pense, dans le cas de la France, par exemple, au décodeur du Monde ou à la rubrique désintox de Libération. Mais la question qui se pose est de savoir s'ils peuvent être efficaces comme on l'essayait du côté des pouvoirs publics ou des gens raisonnables au XVIIIe siècle, dans votre XVIIIe siècle, Robert Danton, avec des résultats, disons, mitigés, non?
Oui, mais détoxifier, si je puisse m'exprimer de cette façon, est-ce efficace? Je ne sais pas. J'exagère, mais à peine. Je crois que les Français, à la veille de 1789, étaient convaincus qu'ils vivaient sous un despotisme. Mais nous autres historiens, nous savons très bien que le ministère de Calonne, de Loménie de Brienne, c'était pas des tyrans. Au contraire, ils avaient des réformes qui étaient parfaitement rationnelles. Donc il y avait comme une fausse conscience très répandue. Et pour ma part, je pense que l'historien a intérêt à investiguer la fausse conscience du public. C'est un autre sujet, c'est un grand sujet, mais les fausses nouvelles y sont pour beaucoup.
Je vois que vous avez envie, et je m'en félicite, Robert Danton, que je vous invite à nouveau. J'observe en tout cas que le mot de post-vérité a été choisi par le dictionnaire d'Oxford comme le mot de l'année. Et maintenant, selon nos usages, Robert Danton, j'en viens à votre bibliographie, qui est illustrée par des titres importants. Je citais l'affaire des 14, qui est une étude apparemment ponctuelle, mais qui éclaire sur beaucoup de choses. Poésie, politique et réseau de communication à Paris au XVIIIe siècle, chez Gallimard, 2014. Vous avez publié aussi un livre consacré à la censure, Essai d'histoire comparée, en élargissant au-delà de la France du XVIIIe siècle, chez Gallimard, en 2014. Et puis le livre majeur, Le diable dans un bénitier, l'art de la calomnie en France, de 1650 à 1800, chez Gallimard, en 2010. Qu'est-ce que c'était que cette affaire des 14?
Eh bien, je suis tombé par hasard à la bibliothèque de l'Arsenal sur un dossier dont le titre était « L'affaire des 14 ».
La chère bibliothèque de l'Arsenal.
Ah, que j'adore. belle bibliothèque où j'ai passé des moments délicieux.
Qui dépend de la Bibliothèque nationale de France.
Oui. Et je cherchais autre chose, comme toujours. Mais on tombe sur un dossier inattendu, je l'ouvre et je trouve une enquête policière sur, pour utiliser un terme moderne, l'opinion publique. Cela a commencé par un ordre qui venait de Versailles, du ministre de la Maison du Roi. Trouvez-moi l'auteur du poème qui commence par « Monstre dans la noire furie ». C'est tout ce qu'il savait. Le monstre était, bien sûr, Louis XV. Eh bien, la police avait peut-être 3000 espions parsemés dans tous les cafés, etc.
On n'écoutait pas encore les conversations téléphoniques, mais c'était équivalent.
Oui, tout à fait. Et ces espions de police rapportaient chaque jour les bruits entendu dans les cafés, dans les rues, dans les jardins, à l'arbre de Cracovie, etc.
Les centaines de cafés où tout se cristallisait de l'opinion publique.
Oui, surtout les cafés. Et après 3 semaines, le lieutenant général de police reçoit un petit bout de papier que j'ai trouvé dans le dossier. J'ai trouvé une personne qui récitait le poème contre le roi. Je peux vous le faire connaître si vous voulez. Anonyme, il touche 10 louis, qui était une somme importante à cette époque-là. C'était un jeune homme étudiant en droit. Il est arrêté. Il y a l'interrogatoire qui est fascinant, puisque c'est un jeu du chat et de souris, n'est-ce pas ? Question-réponse, question-réponse. Il explique qu'il a reçu le poème d'une autre personne qui est arrêtée, et ainsi de suite, 14 personnes. Et finalement, il y avait non seulement ce poème-là, mais 7 autres. Donc 8 poèmes, chansons, etc., qui circulaient. Et grâce à la police, que j'admire, comme je le dis, pour leur intelligence, j'ai pu reconstruire un circuit de communication orale avec précision. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui nous montre à quel point les bruits circulaient, puisque les poèmes étaient mémorisés et ensuite chantés, et à quel point les autorités prenaient cela au sérieux.
Avec cette dialectique de l'oral et de l'écrit qui est si exactement caractéristique de l'époque et peut-être encore d'aujourd'hui. Au rendez-vous de l'histoire de Blois, il y a quelque temps, avec l'admirable chanteuse Hélène Delaveau, vous avez Robert Danton offert sur la scène un double récital qui a beaucoup plu, je peux en témoigner, aux participants sur ces chansons de l'époque. Merci beaucoup. J'ai eu un bonheur à vous accueillir ici. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, trouvez, vous le savez, une bibliographie plus complète, notamment la vôtre, et qui va prochainement s'enrichir d'un autre sujet, je crois, non ?
Je viens de terminer la rédaction d'un livre qui sera publié chez Gallimard sur la diffusion des livres en France à la veille de la Révolution.
Ça ne nous éloigne pas tout à fait de notre sujet d'aujourd'hui. Vous pourrez également, je parle à mes auditeurs, à nos auditrices, écouter, réécouter et podcaster cette émission. Ce qui, je tiens à le redire, est techniquement très facile. Samedi prochain, nous parlerons des sages-femmes. Nous montrerons qu'elles sont immémoriales et qu'en même temps, il y a une actualité, vous verrez. Et je recevrai pour en parler Nathalie Sage-Pranchère. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Guillaume Cotte et Nathalie Lempereur, réalisée par Anne Kobilac, avec Yanis Djoudad à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, avec aussi François Merlin, et pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, Clary Monac. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.